Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marie-Anne Durand-Lacaze.
Il y a 200 ans, en 1805, l'Institut de France, créé et installé au Louvre par les révolutionnaires, fut transféré, non loin de là, dans les prestigieux bâtiments du Collège des Quatre Nations Quai Conti, sur l'autre rive de la Seine, tout simplement, juste en face. Retracer l'histoire de l'aménagement du Collège des Quatre Nations pour accueillir les académies regroupées au sein de l'Institut de France, voici maintenant le thème de l'émission Au fil des pages, aujourd'hui consacré à la présentation d'un très beau livre, Le Palais de l'Institut, du Collège des Quatre Nations à l'Institut de France, dirigé par Jean-Pierre Bablon, publié aux éditions Nicolas Chaudin et diffusé par Actes Sud. Jean-Pierre Bablon, bonjour.
Bonjour.
Jean-Pierre Bablon, vous avez dirigé cet ouvrage, mais d'abord, pour vous présenter à nos auditeurs, internautes, je rappellerai que vous êtes académicien de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, moderniste, historien de l'époque moderne, en particulier des guerres de religion et du règne d'Henri IV. Vous avez été élu le 19 juin 1992, membre ordinaire de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, au fauteuil d'André Grabard. Vous êtes également un spécialiste de l'histoire de l'art, en particulier de l'architecture française des XVIe et XVIIe siècles. Vous êtes un fin connaisseur de l'histoire des châteaux, de celui de Versailles, du Louvre, de celui de Chantilly. Vous avez une longue expérience dans les domaines du patrimoine et de la muséographie. En plus de vos ouvrages d'histoire moderne, vous avez écrit et co-dirigé également de très nombreux catalogues d'expositions. Au cours de votre carrière, vous avez été professeur à l'École du Louvre et à l'École pratique des hautes études, conservateur, directeur de musée, inspecteur général des archives de France. Vous êtes actuellement président de la Fondation Jacquemart-André. Sur votre carrière, je renvoie à nos auditeurs sur le site internet de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres sur la notice qui vous est consacrée. On peut dire que vous étiez tout désigné pour écrire cet ouvrage consacré à l'histoire de l'Institut de France. Jean-Pierre Bablon, pour commencer, quelle est la particularité tout simplement de l'Institut de France en tant qu'institution pour nos auditeurs ?
Eh bien, l'Institut de France, c'est une réunion d'académies, n'est-ce pas ? C'est tout à fait essentiel. L'Institut a une personnalité juridique en tant que telle, mais il est aussi la réunion des 5 académies, et ça, c'est tout à fait important parce que au sein de l'Institut, les académies ont leur action, leur budget, leurs publications et puis bien sûr leurs normes électorales tout à fait particulières au sein de l'Institut. Alors les conventionnels, bon, c'est-à-dire la fin du régime de la Convention, ce qu'on appelle les thermidoriens, c'est-à-dire après la révolution Thermidor contre Robespierre, ont pensé que ces académies qu'ils avaient jetées à la poubelle du temps où elles étaient royales, comme investi d'un sentiment aristocratique insupportable, pouvait au contraire présenter un intérêt pour une république, et une république qui voulait des hommes de science, des hommes de connaissance et des hommes de lettres. Donc ces académies ont été ressuscitées sous le nom des sections d'un Institut de France. On insistait sur ce générique Institut de France.
Et sur section, les académies, temporairement, le nom avait disparu puis a été rétabli, non ?
C'est-à-dire que les sections ont été attribuées à ce qui était la nécessité, c'est-à-dire la littérature, les sciences, les beaux-arts et l'histoire, et notamment l'histoire des littératures anciennes. Et beaucoup plus tard, du temps de Louis-Philippe, une cinquième section s'est ajoutée sous le nom d'Académie, Académie des sciences morales et politiques, c'est-à-dire d'avoir des personnes qui réfléchissaient sur le droit et la politique, catégorie que Napoléon, lorsqu'il avait revu le statut de l'Institut franc, avait écarté comme pouvant produire des hommes qui n'étaient guère favorables au régime impérial qu'il instituait en France.
Voilà, qu'il avait jugé un peu trop idéologue.
Voilà.
Alors, Jean-Pierre Bablon, quelle est la singularité de l'Institut de France également en tant que lieu de mémoire ?
Eh bien, l'Institut, on a qualifié l'Institut de Parlement des savants. C'est-à-dire qu'on a imaginé qu'à côté d'une sorte de la représentation démocratique de la politique, n'est-ce pas, formant les assemblées nationales, il y avait lieu d'avoir une assemblée recrutée par elle-même de personnes qui réfléchiraient d'une façon, avec un esprit totalement dégagé de toute politique, aux grands problèmes de l'heure et à la réflexion également sur le passé. Et Dieu sait si, à l'heure actuelle, la réflexion sur le passé est une chose qui est à l'actualité. Donc, cette réflexion sur le passé devait être faite par des personnes dont la connaissance, la science, aussi l'impartialité, probablement, étaient reconnues par leur père, donc, d'où cette décision de cooptation. Et cette cooptation se faisait au sein des académies en voulant reprendre véritablement les travaux des générations qui avaient précédé. Je vais vous donner un exemple qui va vous frapper tout de suite. C'est que l'Académie royale des sciences avait imaginé, au début de la Révolution ou à la fin du règne de Louis XVI, de définir toute la composition métrique normale qui pourrait devenir une métrique internationale, oui, et qui sortirait, n'est-ce pas, de tous les calculs bien compliqués des mesures de l'Ancien Régime. Donc on avait commencé à travailler au mètre, la définition du mètre. Il s'est trouvé que ces réflexions ont été abandonnées au moment de la suppression des académies et que la section des sciences de l'Institut, bien sûr, s'est empressée de reprendre les réflexions là où elles avaient été arrêtées et de conduire, n'est-ce pas, la définition du mètre que vous connaissez sur le diamètre de la Terre. Et nous avons encore aujourd'hui, dans la dernière cour de l'Institut, le bureau des longitudes, qui continue à travailler sur ces réflexions et que vous avez peut-être vu à la télévision il y a 3 jours, n'est-ce pas ?
À
l'émission Thalassa, montrer la pertinence du travail qui a été fait pour les navigateurs, encore aujourd'hui, sur la précession, n'est-ce pas, de tout le croisement des planètes dans le ciel pour les navigateurs.
Alors, revenons aux origines de la création du collège, de l'édifice, disons lui-même. Comment est née l'institution d'enseignement du Collège des Quatre Nations fondée par le cardinal Mazarin ?
Eh bien, c'est une histoire tout à fait intéressante. Bon, vous voyez la carrière du cardinal Mazarin, qui a été cet Italien, n'est-ce pas, auprès du roi, malmené par le public français, malmené notamment au moment de la Fronde, au moment de la régence d'Anne d'Autriche, qui au contraire soutenait le cardinal. Le cardinal est obligé de s'expatrier pendant un temps, puis il est revenu. Donc il y a une période noire, si l'on peut dire, dans la carrière politique de Mazarin, qui a continué tout de même assez fermement à soutenir le pouvoir royal. Et puis, à la fin de sa carrière, il a été tout glorifié parce qu'il avait obtenu deux paix, n'est-ce pas ? Deux paix qui mettaient enfin la France dans un climat pacifié au sein de l'Europe. Les traités de Westphalie de 1648, d'une part, et puis le traité des Pyrénées avec l'Espagne en 1659. Et Mazarin, après 1659, s'est trouvé ainsi au sommet d'une gloire qui n'était plus contestée. Il était le mentor politique du jeune adolescent qu'était Louis XIV. Il avait une fortune énorme et il a décidé de faire une fondation à l'exemple du cardinal Richelieu qui avait recréé la Sorbonne et qui a construit, comme vous savez, cette magnifique église de la Sorbonne.
C'était l'usage pour un grand commis de l'État.
Tout à fait, de laisser... Voilà. Alors, dans les deux cas, n'est-ce pas, il s'agissait de créer une fondation universitaire ou scolaire et universitaire, n'est-ce pas, c'est-à-dire un collège, et puis d'imaginer pour ce collège des bâtiments somptueux qui serviraient à recueillir les collégiens pour leur vie de tous les jours, pour leur salle de classe, pour les réfectoires, qui fournirait un édifice du culte pour les messes qui seraient célébrées. Et bien sûr, avec l'idée qui restait naturellement dans la tête du fondateur, c'est un lieu où ériger son tombeau. Ouais. Donc le testament de Mazarin fait état justement de cette longue réflexion de Mazarin sur un collège. Et ce collège a été appelé Collège des Quatre Nations.
Alors, bon. Ce nom est une heureuse trouvaille. Vous pouvez nous expliquer ce qu'il y a derrière ces termes de nation pour l'époque. Eh bien, ça, c'est pas au sens d'aujourd'hui.
Voilà, les nations, à l'époque universitaire du Moyen-Âge et classique, c'était des nations de langue, n'est-ce pas?
Voilà.
C'était des communautés de jeunes ou de moins jeunes qui pratiquaient une certaine langue. On parlait de la nation picarde, la nation normande. Et là, Mazarin a décidé que les provinces qui avaient été réunies à la couronne de France par les faits des deux paix qu'il avait signées avec les ennemis de la France, devaient pouvoir envoyer leurs élites, puisqu'il faut bien employer le terme, c'est-à-dire des bourgeois et surtout des aristocrates, des jeunes gentilshommes, pour apprendre le français, apprendre les mœurs de la France, apprendre aussi le catholicisme quand il venait de régions où pratiquait plutôt la religion réformée. Et ces quatre nations sont donc les régions qui ont été réunies à l'occasion de ces traités, c'est-à-dire la Flandre et l'Artois d'une part, l'Alsace d'autre part, le Roussillon et la Cerdagne en troisième, et puis quelques régions d'Italie, Pignerol, et des quelques places qui étaient réservées pour des Italiens, qui viendraient, comme Mazarin, faire leur carrière politique en France.
Bon, tout ça pour servir au mieux le roi de France.
Tout à fait.
C'est une
absolument.
Politique tout à fait stratégique.
Stratégique.
Là, à long terme. Alors, Mazarin avait confié son projet à Colbert, qui fit le choix de l'architecte Levaux. Et c'est en quelque sorte Colbert qui a donné encore une autre
oui.
ambition au projet.
Tout à fait. Le rôle de Colbert était capital, d'abord parce qu'il est... Il était l'intendant, il savait ce que coûtaient les choses, n'est-ce pas? Il connaissait la fortune que laissait le cardinal pour la création de son propos.
Et faire appel à l'architecte Levaux n'était pas innocent.
Non,
alors,
c'était l'architecte du roi, le premier architecte du roi. C'est celui qui construisait à ce moment-là le château de Vincennes. Allez à Vincennes et vous verrez certains éléments qui sont assez proches. Et notamment, j'insiste sur le fait, c'est ce qu'on appelle l'ordre colossal, c'est-à-dire un ordre de pilastres ou de colonnes qui embrasse deux étages,
oui.
que Levaux aimait particulièrement, qu'il a utilisé au château de Vincennes et qu'il a utilisé ici sur les pavillons latéraux de l'Institut de France.
Qui entoure la chapelle.
Voilà,
la fameuse chapelle dont les Parisiens voient bien manifestement la coupole quand ils sont face à l'Institut, tournant le dos à la Seine. Effectivement, on voit bien que le bâtiment a obéi presque à une scénographie urbaine, une espèce de courbe qui prolonge en quelque sorte... Également la courbe dessinée par la chapelle. Et est-ce que c'est rare comme ça qu'un même architecte, je crois que Levaux a aussi, Levaux
oui.
a également participé à l'aménagement du Louvre. Et donc,
oui, tout à fait.
Ça doit être rare dans l'histoire
oui.
qu'un architecte élabore des projets oui. de bâtiments différents, disons, et dans le temps espacé. On lui a confié là deux projets magnifiquement ambitieux, mais. On a aussi une réunion de style.
Tout à fait.
Et, oui. et que pouvez-vous nous dire oui. d'ailleurs de ce style dans ces années 1660 oui. là, on est au carrefour des influences au sein
carrefour
de l'Europe.
Carrefour des influences. Oui. C'est-à-dire que Levaux a eu la chance, à travers les vicissitudes de l'histoire, d'avoir la charge d'un paysage entier, n'est-ce pas, de chaque côté de la rivière de la Seine, dans le plus bel endroit de la Seine, n'est-ce pas,
oui.
devant la pointe de la cité. Donc, c'est un avantage tout à fait extraordinaire, dont il a profité en traitant les éléments de deux façons très différentes. Vous voyez la façade du Louvre, la dernière façade qui regarde le sud, n'est-ce pas, le long de la Seine, qui est une façade qu'il a construite lui-même, mais qu'il a construite dans des conditions assez particulières. Une fois que le projet du cavalier Bernin, l'Italien venu à Paris pour cela, ait été écarté, c'est un projet qui devait se conjuguer avec la grande façade de la colonnade, pour lequel il a été l'une des parties prenantes, avec Perrault notamment. Et donc, il fallait qu'il y ait une façade avec toute droite, avec des grands pilastres colossaux, mais qui épouse complètement l'angle de la façade plus ajourée de la colonnade. Donc, c'était quelque chose de rigide,
oui.
d'architecture rigide française, n'est-ce pas? d'architecture voilà, qu'il utilisera après ça aussi au château de Versailles, pas à partir de 1662, dans ce qu'on appelle l'enveloppe de Levaux du côté des jardins. Au contraire, en face, il avait à construire non pas un palais royal, mais un collège. Et ce collège devait être centré sur la chapelle, avec un dôme, comme il commençait à y en avoir un certain nombre sous le ciel parisien, mais qui bien sûr venait beaucoup d'influence italienne. Et puis, cette idée que l'église ne pouvait pas se trouver au ras du quai, elle se trouvait au fond d'une place.
Oui.
Et c'est l'idée majeure et magnifique, oui, n'est-ce pas? C'est cette place en hémicycle qui est tout à fait étonnante,
oui,
qui est coincée entre ces grands pavillons tout à fait à la française, avec des toitures très hautes,
oui,
contre des ailes très basses en arrondi, n'est-ce pas, qui accueillent un peu
l'hémicycle,
accueille le visiteur, le cerne, n'est-ce pas, et le font entrer dans l'église.
Alors d'ailleurs, votre ouvrage a de magnifiques planches reproduites. Il y a des dessins à la plume de Levaux, des architectes qui ont travaillé avec lui. Il y a même des relevés très détaillés,
j'ai très, dit,
très, très, très détaillés, qui étaient conservés aux archives nationales.
Oui, c'est ça.
Donc, moi, j'ignorais qu'on disposait de relevés aussi précis, parce, ouais, que vraiment, ouais, les plans sont très, ouais, impressionnants. Je me suis rendu compte à ce moment-là que déjà à cette époque, Paris était l'objet de beaucoup de préoccupations. Enfin, disons que chaque mètre carré était bien utilisé,
bien
et
sûr,
que déjà à l'époque, on avait l'intention de ne pas donner ce terrain pour n'importe quel projet, ouais, de l'attribuer pour servir le roi au mieux.
Mais le projet... ce qui est invraisemblable, n'est-ce pas, à nos yeux qui cherchons à imaginer un urbanisme qui s'ordonne de façon régulière, qui ne coûte pas trop cher aux citoyens, etc. Là, le collège Mazarin a été construit devant la berge de la Seine, à l'emplacement où le rempart de Philippe Auguste arrivait en biseau avec la tour de Nesle, n'est-ce pas, et puis un large fossé.
Oui.
Hein, qui recueillait des eaux de pluie, mais aussi d'une petite rivière. Donc les terrains les plus difficiles et les plus chers à utiliser pour refaire, n'est-ce pas, une espèce de terrassement,
oui,
sur pilotis sur lequel on pouvait bâtir les bâtiments.
Mais ça a vraiment été, ouais, une politique de grands travaux,
ah, oui,
d'aménagement.
Grands travaux. Oui.
Les travaux donc, oui, se sont étendus sur plusieurs, oui, dizaines d'années. Que vous avez aussi réuni des peintures dans cet ouvrage où on voit justement c'est à la fois une vue du Louvre et du palais en construction. Enfin, non, on ne l'appelait pas le palais, mais du collège,
oui,
en construction.
Collège, oui.
On voit également les aménagements des quais de la Seine, tout à fait différents. Donc là, on a l'avantage de l'ouvrage, c'est de présenter des plans, des peintures, des dessins et des photographies contemporaines qui nous permettent de vraiment bien visualiser les différentes étapes de la construction de ce bâtiment. Alors comment François Dorbet, le successeur de Levaux sur le plan architectural, a poursuivi les travaux de l'édifice?
Eh bien, il était le meilleur dessinateur et l'adjoint très talentueux de Levaux. Il avait aussi, curieusement, un avantage sur Levaux, c'est qu'il était allé en Italie, il était allé à Rome, n'est-ce pas, bon. Donc il avait vu des réalisations dont Levaux n'avait entendu que par oui dire, les beautés, notamment tout ce qui était la Piazza Navone, et avec justement cette très belle église et tout l'ensemble des grands architectes baroques de l'Italie, c'est-à-dire Bernin.
Et une place en ellipse, là
Bernin
aussi,
et,
pour la Piazza Navone.
Et Borromini. Donc il avait une idée de la plastique aussi, n'est-ce pas, qui a certainement ajouté au strict dessin de Levaux une valeur du volume, de la courbe, de la place des statues aussi, sur tout l'ensemble scénographique de ces façades mouvementées.
Donc un apport italien.
Italien, tout à fait italien.
Pourquoi Napoléon, donc au moment juste après la création de l'Institut de France, donne-t-il l'ordre d'installer l'Institut de France dans les bâtiments du Collège des Quatre Nations? Juste avant, ils étaient installés au Louvre.
Eh bien, les académies royales étaient logées chez le roi, n'est-ce pas? Le Louvre, où le souverain n'habitait plus guère, comme vous savez, quand il venait à Paris, il allait aux Tuileries, et non pas dans le Vieux Louvre. Donc le Vieux Louvre, c'était les administrations royales, essentiellement les administrations culturelles. Donc toutes les académies anciennes, avec tous les élèves qui suivaient les cours, notamment des peintres et des sculpteurs, étaient logés dans les ailes de la cour carrée. lorsque Napoléon est arrivé, qu'il a conçu une nouvelle politique culturelle qui était de faire du Louvre le muséum central des arts, où il y aurait non seulement les œuvres des anciennes collections royales, mais des œuvres venues de toutes les collections qui avaient été saisies sur les communautés religieuses ou sur les émigrés. Et troisièmement, tout ce qu'il a pu faire venir, tous les trésors qu'il a pu faire venir des pays que les armées de la République puis de l'Empire avaient occupés, c'est-à-dire les Flandres, la Hollande, l'Allemagne et surtout l'Italie. Tous ces convois devaient trouver de la place pour présenter au public parisien et français et étranger les chefs-d'œuvre qui devaient faire du Louvre le musée du monde occidental.
Alors, donc, le Louvre était destiné à un nouveau projet, donc il fallait trouver de la place.
Donc il fallait évacuer les académies. Alors on lui a proposé des projets, fallait-il construire un palais, des colonnes, où ça? Puis finalement, tout simplement, l'idée dit, mais face au Louvre, il y a un palais. Et ce palais est indignement utilisé, puisqu'il servait de prison ou de réserve de céréales,
à ce moment-là,
depuis qu'on avait supprimé le collège. Donc on a lancé un architecte, n'est-ce pas, pour essayer d'étudier comment on pouvait aménager un espace pour recevoir les séances solennelles et les séances de travail des sections qui allaient un peu plus tard reprendre leur nom d'académie.
Donc on a aménagé le fameux collège pour les travaux académiques et ça a été confié à Antoine Vaudoyer.
Vaudoyer, voilà. Et entre-temps, on s'était dit, il faut tout de même qu'il y ait un lien
avec Mazarin.
Un lien avec le Louvre.
Le Louvre aussi, ah oui, on
a
oublié
la fin. Aller de l'un à l'autre. Oui. Et alors, Napoléon, avec ce modernisme extraordinaire qu'il avait dans l'esprit, a décidé qu'on construirait une passerelle métallique.
Oui, c'était faire preuve de grande modernité. C'est la première sur Paris.
Entre le Louvre, le palais du Muséum et le collège Mazarin, qui était désormais appelé Palais des Arts.
Palais des Arts. On réunissait les arts des deux côtés, des deux rives de la Seine.
Le terme de art étant plus exprimant davantage que les arts plastiques, n'est-ce pas? Les arts, c'est aussi les sciences, les lettres, les activités de l'esprit.
Alors, plus tard, c'est l'architecte Lebas qui a poursuivi aussi, à son tour, les travaux initiés par Vaudoyer. Il s'agissait donc de créer des espaces de travail pour les académiciens, parce que la chapelle a servi aussi de premier lieu de réunion, mais il a fallu trouver davantage d'espace. Et là, ce fut la création carrément d'une aile qui fait face à l'aile existante et qui est vraiment une aile consacrée uniquement aux grandes salles de travail où se réunissent les académies chaque semaine. Et la coupole est réservée pour les grandes séances solennelles. Ça, c'est resté et c'est ce que connaît d'ailleurs le grand public. C'est ce qui se passe sous la coupole et ce qu'on y aperçoit. Mais pouvez-vous donc nous expliquer un petit peu l'architecture de cette aile du 19e et qui, en fait, est aujourd'hui le bâtiment tel qu'il se trouve, enfin.
Les étapes successives ont fait d'abord un Vaudoyer, sur l'ordre de Napoléon, a modifié l'église elle-même, celle qu'on appelle la coupole, pour accroître le nombre de visiteurs, mais aussi améliorer les problèmes d'acoustique. Donc il a fait une fausse coupole à l'intérieur. On viendrait plus loin en disant que tous les travaux de Vaudoyer ont été supprimés pour retrouver l'église dans sa pureté primitive. Puis on a cherché des salles de travail et des bureaux un peu partout. Bon, alors donc, il y a eu des essais dans les différents bâtiments du collège. Et puis finalement, comme vous disiez, Hippolyte Lebas, que nous connaissons beaucoup à Paris pour être l'architecte de l'église Notre-Dame de Lorette, qui est une très belle église sur le plan de la référence basilicale des églises du 19e siècle. Donc, il a été chargé de trouver cet emplacement nécessaire pour les salles de travail. Et après avoir cherché un petit peu partout, il s'est dit, bon, ben voilà, je vais construire. Et il a construit le long de l'ancien mur, ou de ce qui restait de l'ancien mur de Philippe Auguste, le mur d'enceinte de la ville, en biais, mais parallèlement à l'autre aile de Levaux qui renfermait cette grande cour du collège où les collégiens du XVIIIe siècle s'ébattaient et jouaient peut-être au ballon, et où David, le peintre David, a reçu de ses camarades une pierre dans l'œil qui l'a abîmé l'œil pour la fin de sa vie.
Et ensuite, il s'est assis fauteuil d'académicien.
Fauteuil d'académicien pour se reposer. Donc, il a construit, conçu cette grande aile qui est un témoignage très particulier, très élaboré, de l'inspiration d'une antiquité, d'une part, matinée, si j'ose dire, de Renaissance italienne, qui faisait le fond le plus intéressant de l'architecture du milieu du siècle, sous la monarchie de Juillet, sous Louis-Philippe. Et il a construit, avec un grand apparat décoratif extérieur, avec des colonnes, des chapiteaux, etc., d'ailleurs, où il n'a pas manqué de rajouter l'étoile du blason de Mazarin, n'est-ce pas, voulant véritablement s'inscrire dans l'architecture du collège. Mais oui, il a conçu sa grande salle, la plus grande salle.
La plus grande salle des séances, avec
un thème tout à fait moderne à ce moment-là, c'est-à-dire un éclairage zénital. Donc, nous en servons plus aujourd'hui parce que maintenant, il y a la lumière électrique. Et sans ça, c'était cet éclairage zénital, c'est-à-dire cette verrière au sommet qui éclairait
le travail des académiciens. En permanence.
Une belle salle, une très belle salle où le public est d'ailleurs admis aussi pour des séances de travail. Des académies, une grande salle qui sert à un certain nombre d'académies, l'académie des inscriptions, des sciences. Et puis des beaux-arts. Et puis une petite salle dominée par un grand portrait de Richelieu qui sert pour l'Académie française et pour l'Académie des sciences morales.
Alors, est-ce que le palais a encore connu des aménagements au XXe siècle ?
Oui, alors d'abord, comme je vous disais, après des réflexions qui n'ont pas cessé de se produire dans le cerveau des académiciens et de leurs administrateurs, qui étaient de trouver de la place pour des séances de travail, des salles de travail plus grandes, pour des bureaux, des bibliothèques, premièrement. Et deuxièmement, devant la permanence d'un projet d'urbanisme parisien qui visait à détruire le palais de l'Institut, pour dégager un grand boulevard qui irait, selon les principes haussmanniens, d'une gare parisienne à une autre gare parisienne. Donc la gare Montparnasse étant mal desservie par une rue de Rennes dont vous savez qu'elle s'arrête brusquement à l'église Saint-Germain-des-Prés, on avait imaginé une grande radiante, n'est-ce pas, qui passait sur les bâtiments de l'Institut, qui traversait la Seine sur un grand pont en forme de X et qui se retrouvait ensuite sur la place Saint-Germain-l'Auxerrois, quitte à partir après ça, faisant beaucoup de dégâts. Donc il fallait d'une part satisfaire les académiciens en trouvant de la place, et d'autre part, il fallait éviter à tout prix ce projet destructeur. Oui. Donc, un certain nombre d'architectes ont proposé, jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps, la construction d'une salle nouvelle qui se serait établie sur les squares qui sont derrière l'Institut, au coin de la rue Mazarine et de la rue de Seine, jusqu'au jour où finalement on a décidé que les projets de la ville de Paris devaient être absolument abandonnés, qu'il fallait se débrouiller pour aller de la gare Montparnasse à la gare de l'Est d'une autre manière. Mais aussi, les académiciens ont manifesté leur attachement profond à la coupole, en disant c'est là que nos grandes cérémonies doivent avoir lieu, la forme même de la coupole, la façon dont on l'appelle vis-à-vis du public, doivent rester notre ligne de mire. Il faut réaménager la coupole, supprimer ce qui avait été fait sous le Premier Empire, et cette nouvelle installation qui a été obtenue pour trouver plus de place en décaissant le sol même de la chapelle, en descendant plus bas, n'est-ce pas, de façon à créer des amphithéâtres, a été donc adopté. Alors, bien évidemment, ceci va pour un certain nombre de séances solennelles. Cela ne va pas pour les grandes réunions de l'Académie la plus nombreuse, qui est l'Académie des sciences. Donc, des aménagements de salles nouvelles ont été faits à l'extrémité de l'aile Leveau, de façon à pouvoir recevoir avec les moyens nécessaires pour asseoir le public et regarder les projections, les différentes activités de l'Académie des sciences.
Alors, ce magnifique ouvrage comporte aussi un chapitre, une longue chronologie, mais qui n'est pas du tout rébarbatif, parce qu'il s'agit d'un chapitre consacré aux 50 dates qui ont fait l'Institut. Et là, en quelques pages, j'invite les lecteurs, on parcourt l'histoire de l'Institut par un choix de dates très, très agréable à lire, et facile à lire. Le tout toujours agrémenté d'une riche iconographie qui nous permet de rapidement, en quelques pages, mais bien fournies, de bien connaître l'histoire de l'Institut.
Alors, je voudrais d'abord réparer un oubli de ma part. Le dernier chapitre, si j'ai traité des premiers chapitres sur l'histoire au XVIIe, au début du XIXe, le chapitre sur fin XIXe, XXe, est de mon collègue Yves Boiret, architecte en chef des monuments historiques et membre de l'Académie des Beaux-Arts. Deuxièmement, alors c'est 50 dates. Voilà, l'objet d'une écriture de Jean-Michel Legnaud, grand connaisseur de l'histoire et de la société au 19e et au début du 20e. Et il a conçu de la façon la plus attrayante possible son exposé. Il y a eu dans les dizaines d'années passées bien des histoires de l'Institut qui racontaient l'aventure et les activités de l'Institut et de chacune des académies. Là, il a voulu prendre des éléments qui répondaient à la curiosité du public en se disant quand, pourquoi, comment
voilà, s'est exactement, fait telle ou telle décision. L'Institut lieu de discussion, et là, il a choisi une date. Tout ce qui concerne l'Institut et sa propre histoire, les legs, les tutelles. Donc, on a aussi tout un panorama de l'activité réelle de l'Institut. Et puis, pour finir, le livre comprend également le catalogue d'une exposition qui a eu lieu au palais même de l'Institut, qui s'intitulait « Le palais de l'Institut à travers les arts », pour l'exposition pour laquelle a été réunie ici, justement, là encore, des tableaux, des gravures, des caricatures, des médailles, autant d'objets qui aujourd'hui ont été replacés ou redonnés à leurs collectionneurs, à leurs propriétaires.
Ou achetés, ou donnés pour l'occasion à l'Institut. Voilà. Et accrochés désormais dans les murs du palais, sur les murs du palais.
Eh bien, Jean-Pierre Bablon, merci de nous avoir fait partager votre connaissance de ce lieu de mémoire tout à fait exceptionnel. Et je renvoie nos auditeurs à la lecture de ce magnifique ouvrage, Le Palais de l'Institut, du Collège des Quatre Nations à l'Institut de France, publié aux éditions Nicolas Chaudin, publié en septembre 2005 et diffusé par Actes Sud.